Martels, les dieux se vengent. Grâce aux sublimes indiscrétions d'Homère, nous savons tous que le plus spirituel et le plus rusé des Grecs, Ulysse, roi d'Ithaque, fut pendant au moins une année l'amant de Circé, fille du soleil, magicienne et reine de l'île d'Aea. Les compagnons d'Ulysse, redevenus hommes après leur métamorphose en animaux, firent sans doute une heureuse cour aux suivantes caméristes, brodeuses de Circé, pendant que leur maître trahissait sa chaste épouse Pénélope au profit d'une jeteuse de sorts et verseuse de philtres. Mais on ignore, ou à peu près, qu'un des matelots du roi d'Ithaque conserva jusqu'à sa mort, et cela par sa faute, la forme peu enviable d'un pourceau. Il se nommait Lycopinax, le lécheur de plats, et remplissait dans une métairie royale l'humble fonction de presseur d'olives. Mais son intelligence ne put atteindre aux emplois supérieurs, ceux de bouvier ou d'aide des chansons. Au moment de s'embarquer pour Troie, Ulysse l'aperçut qui ronflait sous un pin. Et le roi tenait à conduire auprès d'Agamemnon un effectif de combattants aussi imposant que possible. D'esprit faible et de peu de valeur militaire, Lycopinax n'en fut pas moins inscrit sur les rôles de l'armée. On affecta d'ailleurs cette médiocre recrue à la flotte, entendez par là à la garde des galères, en compagnie des califats et des vivandières. Pendant que les Grecs se couvraient de gloire autour de Troie et dans la ville, Lycopinax buvait du vin au miel, mangeait des figues sèches à bord d'une birème et passait le reste de son temps à dormir. Ilion prise, Hélène revenue à Ménélas, les comptes réglés, Ulysse repartit pour Ithaque, emmenant tout de même ce fainéant. Le lécheur de plat assista donc aux aventures de terre et de mer, cyclope par-ci, lestrigon par-là, et fut l'un des 46 survivants qui débarquèrent en l'île qui régnait Circé, la rayonnante. À son tour, il vit remplacer sa tête et sa peau par un groin et des soies, en conservant le don des larmes et la pensée d'un homme, mais l'enchantement agit sur lui avec mollesse, et frappé le dernier par la fatale baguette. Au lieu d'être muet en pourceau adulte, Lycopinax débuta comme cochon de lait. Il pleura sur sa destinée, grogna autant que les autres braves guerriers, partagea leur abjecte nourriture et fut, comme eux, enfermé dans la boucherie. Mais le jour où cessa le charme grâce à la salutaire plante Molly, cadeau de Mercure à Ulysse, lorsque les compagnons, le roi en tête, allèrent banqueter, boire le vin délectable en l'éblouissant palais de la nymphe, le stupide Lycopinax avait mangé double, pâté, et il dormait encore sur son fumier au fond de l'immonde repaire. Ayant point entendu et répondu à l'appel de son nom, il demeura un vulgaire habillé de soie, comme dit le peuple des champs. La nuit venue, l'intendant et le portier éteignirent les lumières du palais royal d'Aéa. Et quand tout dormit dans l'île, l'ancien presseur d'olives s'éveilla en sursaut et comprit son malheur. Il quitta la porcherie dont l'issue était libre, personne ne soupçonnant la présence d'un traînard, et incapable d'analyse, dépourvu de sens critique, peu porté à la psychologie, l'involontaire pachyderme crut au massacre dû à la fuite d'Ulysse et des 44. Alors vite, il s'éloigna de ces lieux tragiques et, maudissant son roi plus encore que Circé, il alla se cacher derrière un rocher au bord de la mer. Le glouton soupirait après les figues, l'agneau rôti, les fromages d'Ithaque, tout en regardant se lever chaque jour l'aurore aux doigts de rose. Au loin, sur les flots, Ulysse et sa troupe le croyaient mort ou noyé, ce lécheur de plats, cette non-valeur. Heureusement pour le Copinax, le sol de l'île abondait en chêne. Il put donc se gorger de glands, grandir, grossir, et finalement devenir pourceau, sans que jamais l'intendant et chef des métairies, un homme âgé et dépourvu de zèle, eut l'idée de porter ses pas de ce côté. Le solitaire, lui, écumait de rage. La patrie ne sortait plus de sa pensée, tant la terre natale exerce son prestige, même sur les plus minces intellects. Cet exil entre la roche et la mer lui devint à la longue insupportable. Dans les premiers jours du mois Brutobonion, c'est-à-dire en septembre, il rôdait aux environs du palais, au risque d'être capturé par les cuisiniers de la déesse. Il entendit de nouveau chanter à pleine voix l'enchanteresse, pendant qu'assise sur un trône d'or clouté d'argent, elle tissait sa grande toile à prendre les hommes. Il s'extasia de la merveilleuse habitation en pierre polie, regarda les servantes aller et venir. Le vénérable intendant à barbe blanche et fluviale donnait des ordres en agitant son bâton. Tout ce monde était heureux, certes, mais rien ne valait le royaume d'Ulysse. Les Gobinax sanglotaient, grognaient plus fort qu'à l'ordinaire, si bien qu'il attira l'attention d'un jeune esclave passant par là, porteur d'une amphore. L'Éphèbe, étonné de voir un tel animal vagabonder auprès de l'auguste demeure, courut en avertir l'intendant, et peu après, sur l'ordre de Circé, l'imprudent pourceau, dûment nettoyé, décrassé, parfumé de verveine, comparaissait devant elle. Depuis longtemps, Ulysse était parti, abandonnant pour toujours la charmeresse d'Aéa, parti pour de nouvelles aventures, parti pour recevoir de Pénélope et les lui rendre ses baisers conjugaux. Et cette idée torturait le cœur de Circé. Ah, si l'ordre des dieux n'avait pas été absolu, comme elle regardait auprès d'elle son Ulysse, car il savait aimer celui-là. Nul des naufragés que touchait sa baguette n'égala jamais, aux heures d'amour, le robuste guerrier revenu de Troie. Elle ne cessait de penser à lui, évoquant ses moindres mots et attitudes, soupirant après les délices dont il l'avait rassasié, les ardentes caresses qu'il lui prodigua. À l'aspect de Guy Copinax, Circé reconnut dans ce pourceau un compagnon de son ancien amant, hoplite ou rameur, échappé par hasard à la réincarnation humaine. Celui-ci me parlera de l'absent, songea l'immortel en frangant du soleil. Elle congédia d'un regard serviteurs et suivantes, puis, la magique baguette ayant effleuré le groin de l'infortuné, Circé prononça ces paroles. Je te rends ta voix et ton langage d'homme. Pour le reste, je ne promets rien. Tout dépend de toi. Grâce vous soit offerte, ô déesse, s'exclama l'enfant, l'errant. Mais ne laissez point achever votre œuvre. Accordez au pauvre Lycopinax de reprendre sa première forme. Faites équiper une galère pour le ramener en Ithaque, et vous restituerez ainsi à la Grèce un de ses plus illustres soldats. Soldat, dis-tu? Et quel était ton rang, ta dignité dans l'armée du vaillant Ulysse et sur le navire qui le conduisit à ma douce Aïa? Peu que je fus devant Ilion, princesse, mais je fus du parc de mon roi, le commandant de sa cavalerie et même son plus intime confident. Circé sourit de pitié. Ulysse au grand cœur n'aurait jamais quitté Dule en oubliant un ami intime. Il était évident que le lécheur de plats se vautrait en plein dans l'hyperbole. Tu mens, tu m'étourdis de fables, dit-elle. Tu ne serais point grec sans cela. Mais tu as eu l'honneur de servir sous mon cher Ulysse. À ce titre, tu m'es presque sacré. Conte-moi, oh, conte-moi, vite, Lycopinax, ce que tu savais de ce héros. Comment vivait-il dans Ithaque? Ses sujets l'adoraient, n'est-ce pas? Et d'abord, parle-moi de son royaume. Quel fleuve l'arrose? Combien de vaisseaux dans ses ports? Dans ses villes, combien de palais? Lycopinax leva la tête, patte dans le fallacieux espoir de se gratter l'oreille droite, ce qui représentait pour lui le comble de l'embarras. Autant à jamais envolé, où il cueillait l'olive et voguait sur les vastes mers. Mais il ne put, hélas, y parvenir. La déesse éclata de rire. Au fond, comme toutes les magiciennes, oh, je peux dire toutes les femmes, elle possédait son côté faible. N'ayant plus sous la main qu'un seul compagnon d'Ulysse, elle voulut le ménager. Je vois ce dont il s'agit. Tu crains d'affliger mon esprit du peu d'éclat de tes paroles. Peut-être ignores-tu, captif, le rythme, la splendeur, la musique, l'éloquence des mots achéens parle quand même. La fille de Dieu comprend tout. Le bourseau, subitement rassuré, obéit non sans bravoure. Et ce jour-là, durant 3 longues heures, il entrait en Circé, des olives, de l'huile, des campagnes de la cité et du port d'Ithaque, patrie des guerriers. Ô belle Clémide, mêlant à tout cela l'histoire de ses querelles personnelles avec le vieil Eumée, berger en chef du domaine royal, et le chien Argos, qui le mordait toujours aux jambes, affirmait-il. Un copieux repas, composé de cornouilles et de glandes, gland exquis, récompensa la verve chaotique du narrateur. Le second jour, il raconta le siège de Troie, vu du fond d'une barque, la reine condescendait jusqu'à frissonner. Et le troisième jour, il parlait d'Ulysse, mais sans nul enthousiasme. Pourtant, Circé but ses paroles jusqu'au bout. Le quatrième jour, dès que les gardes eurent introduit l'animal auprès de la déesse, Circé, un peu nerveuse, lui jeta ses rapides paroles. « Oh, je suis presque décidé à te rendre la forme humaine, mais tu me dois encore une confidence, Lycopinax. » Et elle ajouta avec infiniment de câlinerie et de grâce, « Parle-moi un peu de Pénélope, la femme d'Ulysse, veux-tu ? De la reine d'Ithaque, princesse ? D'elle-même, mais tu répètes mes questions comme la bavarde nymphe Écho. Dis-moi tout librement, mon ami, je te le permets. Voyons, Pénélope, est-elle vraiment jolie ? De quelle couleur sont ses yeux ? S'habille-t-elle avec grâce ? Marche-t-elle avec noblesse ? Ses cheveux sont-ils comparables aux miens ? Et disant cela, Circé écoutait, secouait la blonde toison qui couvrait ses divines épaules. Lycopinax se souvint que maintes fois Pénélope lui évita des reproches, des coups de bâton. Aussi clama-t-il avec enthousiasme et allégresse, « Pénélope, oh, d'une beauté incomparable, je n'ai jamais rien vu de semblable sous le soleil. C'est elle, et non cette mijaurée d'Hélène, que Paris serait dû enlever. Et je m'étonne que le roi Ulysse, son époux, ait préféré n'importe quelle autre femme à cette splendide statue vivante. Imbécile ! S'écria la déesse courroucée et bondissant sous l'outrage. N'importe quelle autre femme, misérable, avorton, poussière de quai, mais tu n'as donc pas regardé ! Et, frappant un disque d'or de sa baguette, Circé appela. À moi, Vélodès, Manolbos, Gorgès, à moi, venez tous. Voici un pourceau lourd de graisse et de lard qu'il faut tout de suite égorger, écorcher, démembrer pour vous en faire des grillades. Ainsi mourut d'une mort sans gloire Lycopinax, compagnon d'Ulysse, pour avoir trop aimé son ventre, trop dormi l'heure du suprême appel, et méconnu l'orgueil et l'amour-propre des cœurs féminins. Oh, les dieux se vengent.